2007, Anne Behr, dont vous avez bien entendu parler, est une amie très proche.
Oui.
Et elle m'a annoncé qu'elle avait, elle aussi, la maladie de Charcot et qu'elle irait mourir en Belgique. Elle n'avait pas l'intention de vivre ce martyr jusqu'à la fin. Et elle a pris la décision, une décision extraordinairement courageuse, d'utiliser les derniers mois de sa vie pour faire connaître ce dossier et le porter à l'attention des Français et, si possible, des législateurs. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour lui montrer mon amitié et ma solidarité. Et j'ai créé, moi aussi, une pétition. Et la conjoncture était telle que les chiffres ont commencé à grandir rapidement. Et change.org, qui était notre hébergeur à toutes les deux, donc à Nathalie et le mien, a pris contact avec nous en nous demandant si nous étions d'accord pour que nos pétitions soient jumelées, pour qu'on puisse faire le total des deux, pour voir quelle était vraiment l'ampleur de la mobilisation citoyenne. On a dit oui, bien évidemment. Quelques temps plus tard, le CESE a pris contact avec nous en nous disant qu'ils avaient créé un comité temporaire pour étudier la fin de vie et que ce comité, le déclenchement de ça, avait été nos pétitions. Et est-ce qu'on acceptait d'être auditionnés? Nous avons dit oui. Ça, c'était à l'automne dernier. Et comme vous le savez, à l'issue des travaux, il y a quand même eu une belle majorité des participants qui ont dit qu'ils étaient en faveur de la loi. Et le CCNE a pris contact avec nous lorsqu'ils ont décidé de se saisir de la fin de vie et nous ont aussi invités à être auditionnés. Sauf qu'il y avait une petite phrase un petit peu qui nous a rendu très perplexes dans le courriel qu'on a reçu qui disait qu'ils n'étaient habilités à auditionner que des gens qui étaient responsables d'associations ou de sociétés savantes. Ce qui n'était pas notre cas. On représentait 300 et quelques mille signataires, mais on n'avait pas de statut officiel pour représenter. Alors on a discuté entre nous, on a parlé avec des gens qui étaient venus, qui s'étaient rapprochés de nous pour partager ce que nous faisions, et nous avons pris la décision de créer le choix. Alors 9 mois plus tard, nous avons 10 000 membres, on vient de passer le cap des 10 000, nous avons 382 000 signataires et des brouettes, continue de grimper d'une façon très régulière. Et puis, il y a, qui sont répertoriés en tant que médecins, il y a 75 médecins. Il y en a plus que ça, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ne disent pas quel est leur métier.
Ouais.
Mais on a 75 médecins, et certains d'entre eux ont répondu très récemment, dans le Figaro, il y a la semaine dernière, en fait, à, vous aurez d'ailleurs l'extrait, l'article dans les documents que je vous ai donnés, à une tribune de médecins qui sont opposés à l'euthanasie. Et ces médecins-là ont donc choisi de répondre en tant que membre du choix à cette... Alors donc, nous en sommes là. Et pour... on passe tout de suite à...
Oui.
On va tout de suite au point suivant.
Oui, je crois qu'on
va... On y va tout de suite. Hein, bon. Alors, notre objectif principal, c'est d'obtenir qu'une loi soit votée qui autorise, dans des conditions qui seront bien définies et qui ne laisseront pas de place aux excès, à pouvoir terminer sa vie dans des conditions acceptables en France. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, bien évidemment. Nous pensons au modèle, sans vouloir faire un copier-coller, la loi canadienne, dont je suis originaire, peut-être entendez-vous un petit peu l'accent.
D'accord, oui.
Je suis française depuis 40 ans, on dit qu'il prend mari, prend pays, mais bon, je suis d'origine du Canada.
D'accord.
Et donc, la loi canadienne est très bien faite, la loi belge aussi, mais dans les deux cas, il manque quelque chose. Dans le cas de la loi canadienne, il manque les directives anticipées et la personne de confiance.
Mm-hmm.
Et dans le cas de la loi belge, il manque l'aide active, l'aide au suicide, le suicide assisté. Alors donc, ce que nous souhaiterions voir arriver en France, c'est que le meilleur de tout cela prenne forme de loi. Notre position, je terminerai très rapidement là-dessus, c'est d'éviter à tout prix l'affrontement avec les personnes qui ne sont pas de notre avis. Nous voulons rester au-dessus de la mêlée et essayer de trouver les points de rapprochement.
Ne pas trouver l'hystérisation ou la radicalisation qui a lieu à propos du mariage pour tous.
Ouais,
voilà. Pensons que d'arriver dans le climat actuel, on a plus de chances de faire accepter une proposition de loi, qu'elle soit inscrite ou un projet de loi, si il ne crée pas un clivage.
Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Sans opposition,
particulièrement pas d'opposition, sans négatif.
Ah oui, ah ben ça c'est évident. Oui, bien sûr, j'allais oublier de le dire. Pour nous, c'est une évidence que les deux sont complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'ai fini. Moi, je ne parle plus.
Donc, aussi, c'était vous interroger. Le premier point, je vous interrogeais. Nous connaissons la proposition de loi qui, parmi celles qui existent, nous semble la plus proche, la plus conforme à nos positions. Que pensez-vous de la possibilité que une proposition de loi soit acceptée puisse être inscrite? Quel est le calendrier éventuel? Que pensez-vous des autres propositions de loi? Nous avons appris aujourd'hui que Rachid Temal, le sénateur de Paris socialiste, va faire une proposition de loi. Il nous reçoit demain matin. Ça fait une proposition de loi supplémentaire. Donc voilà, quelle probabilité, de quel calendrier, comment voyez-vous les choses et comment vous situez-vous? Est-ce qu'il y aurait, on peut avoir l'espoir que, d'arriver à une proposition de loi commune?
Alors, je suis d'abord très heureux de vous rencontrer, de vous recevoir ici à l'Assemblée nationale. Vous avez évoqué effectivement Anne Behr, que j'ai eu l'occasion de recevoir en ma permanence. On habite dans le même département. On
habite oui, dans absolument. Le même département. Elle était à Sainte. Ouais.
D'ailleurs, je lui avais demandé de rédiger le préambule de la proposition de loi que j'ai déposée. Et dans l'exposé des motifs, comme on l'appelle, c'est en grande partie son texte qui est écrit. Et d'ailleurs, ce soir, à ma demande, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, sera projeté le documentaire qui a été fait sur elle, qui a été diffusé sur France 3 Aquitaine il y a quelques semaines. Et donc les députés qui le souhaiteront pourront le voir. Je pense que ça sera, à mon avis, assez instructif et intéressant pour beaucoup de collègues qui ne sont pas forcément sensibilisés, aussi sensibilisés que vous pouvez l'être et que je peux l'être sur le sujet. Alors, concernant une loi éventuelle sur la fin de vie, je ne reviendrai pas sur le passé, sur le quinquennat précédent, au cours duquel j'avais été déjà amené à à déposer une proposition de loi. Est intervenu ensuite le débat dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti avec ce que j'appelle un renoncement absolu. Et un reniement d'ailleurs même d'un engagement du président de la République François Hollande à l'époque. Double reniement parce que le Premier ministre était Manuel Valls qui avait déposé une proposition, avec qui d'ailleurs je n'étais pas... Enfin voilà, hein, c'est... Je prends acte de son renoncement et de son reniement, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs je l'attaque en tant que personne, mais j'ai profondément regretté, je l'ai dit à la tribune, que celui qui avait été le rapporteur d'une proposition de loi du Parti Socialiste en 2011 renonce à faire, à défendre, en l'occurrence, une loi qui, finalement, était assez similaire à celle qu'il avait déposée. Et parmi les membres du gouvernement, il y avait beaucoup de signataires de cette proposition de loi de 2011, dont Alain Claeys. Donc ce reniement de la loi Claeys-Leonetti, je l'ai mal vécu, je dois vous le dire. Tous nos amendements à l'époque ont été rejetés par le groupe majoritaire et parfois dans des conditions assez stupéfiantes avec des collègues qui après le vote nous disaient « mais on est d'accord avec toi ». Mais les consignes de l'Élysée, les consignes du groupe socialiste faisaient que on ne pouvait pas voter pour. Donc voilà, hein, on a l'expression de faire passer la consigne avant la conscience, ce qui est quand même assez grave. Et donc on a abouti à une très mauvaise loi, la loi Claeys-Leonetti, qui, à mon sens, crée peut-être même encore plus de problèmes qu'elle n'en résout, et qui est vraiment une loi, j'allais dire, à la fois une loi de compromis boiteux, et on a, sur un sujet pareil, on n'a pas le droit de faire des lois de synthèse, parce qu'on voit ce que ça aboutit, c'est-à-dire à la fois une loi inopérante dans les faits, et quand elle est appliquée, qui ne règle rien et parfois même peut engendrer des souffrances supplémentaires. Donc, à partir de là, évidemment, moi, j'ai souhaité plus que jamais continuer ce combat-là, d'où la proposition de loi que j'ai déposée à titre personnel à l'époque, puisque je n'appartenais pas à un groupe parlementaire. Mm-hmm. J'étais non inscrit, ce qui a changé, puisque maintenant, nous avons créé un groupe parlementaire depuis un mois et demi qui s'appelle « Liberté et territoire ». Et j'ai tenu au mot de liberté parce que je considère qu'effectivement, s'il y a une liberté nouvelle à conquérir dans ce pays, c'est l'ultime, c'est donc celle-là. Mais par ailleurs, j'ai eu effectivement connaissance, plus que connaissance, du dépôt des deux autres propositions de loi, avec lesquelles je ne suis en rien en désaccord, hein. Et d'ailleurs, notre démarche est complémentaire et pas concurrente. Elle est complémentaire dans le sens où la proposition de loi de Jean-Louis Touraine émane d'un député de la majorité, du groupe de la majorité En Marche. Donc elle a vocation aussi à servir un peu d'appel et de voir si un certain nombre de collègues d'En Marche seraient susceptibles de l'approuver ou d'approuver une loi quelle qu'elle soit, enfin quelle qu'elle soit, parmi les trois déposées. Et puis il y a une collègue, Madame Fiat, de la France Insoumise, qui a également déposé une proposition de loi. L'idée étant que ce groupe parlementaire puisse la faire inscrire dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire des jours dans l'année qui sont donnés à des groupes parlementaires pour faire étudier des textes. Donc ça sera mon cas maintenant, puisque je suis membre d'un groupe parlementaire, et la proposition de loi que j'ai déposée, eh bien, j'essaierai de la faire inscrire dans le cadre de la niche parlementaire. Mais comme nous sommes un groupe très récent, nous n'aurons pas cette possibilité-là d'ici, hélas, de nombreux mois. Mais néanmoins, je ne désespère pas à ce que ce texte soit étudié d'une façon ou d'une autre. La difficulté aujourd'hui, c'est que on a certes un Parlement qui a des prérogatives, mais l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure montre que l'exécutif prime le plus souvent sur le législatif et qu'il y avait une majorité lors du précédent quinquennat pour approuver la loi que nous souhaitons, vous comme moi. Elle était là, cette majorité.
Elle était promise en plus.
Elle était là. Elle était promise, effectivement. Et la majorité, elle était là. Et elle était large. C'est vrai que vous évoquez la volonté de ne pas être dans un affrontement type mariage pour tous. Je pense que c'est effectivement important parce que je pense que ça a joué aussi dans le recul du président de la République, qui a été effrayé d'une autre mobilisation de ce type-là, ce qui est à mon avis une erreur parce que certes ce sont deux sujets de société majeurs, mais l'un quand même beaucoup plus majeur que l'autre, si absolument. J'ose utiliser cette expression-là, même si après je ne conteste pas le fait que l'on doit peut-être se préoccuper de la question de l'union des couples homosexuels. C'est pas le sujet, simplement, la question de la fin de vie est un sujet qui, par définition, concerne tout le monde. Et que par ailleurs, les clivages qui ont pu exister sur le sujet du mariage pour tous, que j'ai voté d'ailleurs par ailleurs, ne sont pas duplicables aux clivages qui existent aujourd'hui sur la question de la fin de vie. On le voit à travers de nombreux sondages qui montrent non seulement une adhésion très large des Français au sujet, et les choses ont vraiment évolué, hein, parce qu'il y a 10 ans... on n'aurait pas eu... Les choses maturent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une très large majorité de Français. Et ce qui est important, c'est... je regardais dans le sondage de La Croix de janvier 2017, qui montrait que 72% des Français qui se déclaraient catholiques pratiquants étaient favorables.
Très intéressant.
Donc, je pense que le chiffre est encore plus intéressant que les 80 et quelques pourcents, 85% de Français favorables.
Absolument.
C'est que quand vous avez 72% de catholiques pratiquants qui se déclarent favorables, je veux dire, ça démine en grande partie la crainte de voir une partie de la population française. Parmi ces 72%, j'imagine qu'il y en avait beaucoup qui étaient hostiles et c'était leur droit au mariage pour tous, et qui ne descendront jamais dans la rue si on propose une loi sur l'euthanasie, puisqu'ils y sont très largement favorables. Donc, pour moi, cette question-là, à mon sens, cet argument-là n'est plus un argument. Il ne peut être plus qu'un alibi pour justifier une absence de volonté, mais alors là, politique. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quelle est la position réelle du président de la République sur le sujet. Bien fort, celui qui serait capable de dire ce qu'il pense du sujet. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs réunions à ce sujet, et parfois en sa présence. D'autres interlocuteurs également, il écoute effectivement, mais il ne se prononce jamais. La seule fois où il s'est prononcé sur le sujet, c'est pendant la campagne présidentielle, même s'il n'a pas pris de promesse. On lui a demandé un jour s'il souhaitait choisir la façon dont il allait mourir. Il a dit oui. Donc à partir de là, c'est difficile quand on souhaite pouvoir choisir la façon dont on va partir, et en tant que président, ne pas le permettre aux autres. Mais néanmoins, il n'a jamais pris d'engagement, et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas prononcé. Moi, j'ai interrogé, alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a quelques mois, enfin c'était même lorsque j'ai repris mon nouveau mandat à l'Assemblée nationale, donc j'ai interrogé Madame Musin, puisqu'aucune question ne lui avait été posée jusqu'à présent. C'était en 2017, quelques mois après ma réélection. Et donc Madame Musin m'a répondu de façon d'abord plus en tant que médecin, j'allais dire, qu'en tant que ministre. Que la loi Cléos Leonetti convenait parfaitement, qu'elle devait être mieux connue pour être mieux appliquée, et qu'il fallait faire une évaluation. Voilà. Donc elle a tapé en touche, et on voit bien qu'au fur et à mesure que les mois passent, elle y est carrément hostile à cette nouvelle loi, puisqu'elle a quand même osé affirmer sur France Inter il y a quelques semaines qu'en Belgique, on pouvait mourir sans être malade.
Ouais,
on pourrait être euthanasié sans être malade. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui
ment. Des contre-vérités.
Oui,
exactement.
Ça, c'est quand même assez grave. Donc voilà, on a un président de la République qui ne se prononce pas, qui me paraît très frileux sur le sujet, une ministre de la Santé qui est clairement hostile. Donc au niveau de l'exécutif,
qui
n'a pas toujours été, puisque en 2015, lors d'un colloque, elle avait dit que c'était un bel espace de liberté, cette loi belge.
Et elle était chez les francs-maçons, c'était elle qui était chez les francs-maçons,
qui a fait cette déclaration. C'était un colloque au Grand Orient de France, Bon, voilà, donc aujourd'hui, du côté de l'exécutif, on a au mieux une position très très attentiste. Et au pire hostile en ce qui concerne Madame Buzyn. Néanmoins, je pense que là aussi, potentiellement, comme lors du précédent quinquennat, alors ce ne sont pas les mêmes acteurs, parce que là, pour le coup, je suis un des rares survivants du quinquennat précédent. Il y a 75% de nouveaux, et ceux qui sont restés n'étaient pas forcément, parmi les 25% d'anciens, n'étaient pas forcément les plus favorables. Au contraire, ceux qui sont restés, c'est presque ceux qui étaient le plus hostiles. Bon, mais néanmoins, sur les 75% de nouveaux, par définition, on ne connaissait pas leur position sur le sujet. On a fait une tribune à l'initiative de Jean-Louis Touraine et de moi-même pour essayer de voir quelle était la position des députés sur le sujet. Elle a été publiée dans Le Monde. Et on a, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, mais on a eu quand même plus de 150...
156.
Oui, 156 députés
consignés. À l'époque, consignés. Mais ça a grossi.
Oui, oui, et puis certains m'ont dit, bah, on n'était pas au courant, on n'a pas vu le truc, on n'a pas répondu à temps. Voilà, donc potentiellement, il y a une vraie, majorité qui peut exister au Parlement, sauf que la réalité de la vie politique telle qu'elle se passe à l'Assemblée nationale me fait craindre que cette majorité potentielle, si on lui donne l'ordre de ne pas voter le texte, ben, ils ne le voteront pas. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à convaincre que eh bien, une initiative parlementaire déconnectée, même s'il le faut, en tout cas, pas forcément associé à une initiative gouvernementale, s'ils veulent se protéger, se préserver, que sais-je, hein, pour être possible, puisque voilà, la loi elle prévoit aussi qu'elle peut être d'origine parlementaire et pas forcément d'origine gouvernementale. Et puis à nous de, je vais dire, à nous nous débrouiller comme des grands garçons et des grandes filles. Hein.
Je peux vous poser une question, pardonnez-moi de vous interrompre.
Juste non, je vous en prie.
Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui peut transcender les clivages politiques ?
Oui, 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 je le pense et c'est le cas. Hein.
D'accord.
C'est le cas.
Et nous voulions également vous interroger sur votre proposition de référendum.
Oui, tu avais une question à poser à propos du référendum.
Oui, puisque vous avez évoqué cette possibilité. Il y a d'abord la question de savoir si constitutionnellement c'est faisable, certains en doutent. Et puis d'autre part, comme ça en première approche, parce que bien sûr on n'a pas la connaissance que vous avez des phénomènes politiques, mais il nous semblerait que poser une question de façon aussi tranchée, vous êtes pour, vous êtes contre, ça dépend à quoi on est pour ou contre, vous êtes oui, vous êtes non, c'est une façon peut-être de scléroser un peu le débat, de le réduire, et puis de le dévier peut-être, parce que ça risque de comme on sait, les référendums ne répondent jamais à la bonne question.
C'est le risque.
Donc, c'est pour ça.
Alors après, on est sur un sujet très précis, hein, néanmoins.
Oui, il y a autre chose aussi qui est important.
Oui,
à propos de ça, c'est que nous le constatons avec les pétitions, c'est pour ça que j'interviens, c'est qu'il y a une marge énorme entre les signataires de pétitions, une fois qu'ils ont signé, bon, ils ont fait leur job et puis on n'en parle plus, et puis de franchir le pas pour devenir membre de l'association, bien que ce soit gratuit.
Oui.
Ce qui nous fait penser que les gens veulent bien faire un petit effort s'il s'agit de mettre un petit X à côté de leur nom, mais se déplaceront-ils pour un sujet comme celui-là, comme tel qu'un référendum, pour aller donner leur avis ? Nous craignons.
Ah, les Français sont très intéressés par le sujet.
Mais nous craignons que seules les personnes extrêmement motivées se déplacent. Oui. Et vous savez, comme nous, on ne vous apprendra rien en vous disant que les plus motivés, ce sont les extrémistes. Alors, notre peur, Monsieur Falorni, c'est que vous n'ayez pas du tout le résultat que vous espérez et qu'on devrait avoir si on fonctionne strictement avec les enquêtes de l'UFOP.
Oui.
Parce que les personnes qui auraient dû se déplacer et qui sont d'accord avec vous ne le feront pas. De la même façon qu'il y a plein de gens qui ne sont pas allés voter aux dernières élections. Voilà, c'est ça.
Très brièvement, la crainte principale, c'est quand même d'aborder un sujet, oui ou non, c'est-à-dire blanc, noir, clivé, alors que nous avons l'impression que ce sujet est nécessaire, qu'il est prêt à être accepté par les Français, à condition qu'il ne soit pas clivant. Donc, est-ce que, quand vous avez fait cette proposition de référendum, qu'est-ce que vous nous répondez à cette crainte que nous avons ?
Qu'est-ce que serait la question ?
Mais quelle serait la question, notamment ?
Alors, cette proposition que j'ai faite, ce souhait que j'ai fait, c'est d'abord la volonté de secouer un peu les choses.
Ça, c'est très bien.
Voilà.
J'ai compris comme ça.
Je fais de la politique, je sais comment ça marche.
Et ça marche.
Il y a un moment où il faut à la fois relancer la mécanique, qui est quand même grippée par la volonté du gouvernement de ne pas bouger, et de mettre un peu aussi les pouvoirs publics face à leurs responsabilités, en disant, bah, écoutez, on voit bien aujourd'hui un certain nombre de manifestations qui estiment que les citoyens ne sont pas écoutés. On a un exemple, là, où de quinquennat en quinquennat, on ne veut pas entendre une volonté qui est quand même largement affirmée aujourd'hui par les Français à travers tous les sondages d'opinion, qui sont quand même à chaque fois tous similaires, hein, de ne pas vouloir traiter cette question comme les Français l'attendent. Donc voilà, c'est d'abord l'idée de dire, bah écoutez, écoutez les Français, sinon ce sera aux Français de se prononcer. Voilà. Donc ça, c'est une volonté de faire bouger les choses et de dire qu'il faut se saisir du sujet. Après, je suis, et en cela, je suis parfaitement conscient des limites constitutionnelles de l'exercice. Même si certains juristes considèrent que, puisque l'article 11 prévoit qu'il est possible de soumettre à référendum une réforme relative à la politique sociale, et que dans le champ de la politique sociale, un des quatre volets déterminés dans la définition de la politique sociale est ce qui vise à préserver la dignité humaine, je cite, ça peut éventuellement s'inscrire dans ce champ-là de préservation de la dignité humaine, puisque je considère que c'est un droit, justement, de pouvoir mourir dignement. Voilà, mais je suis parfaitement conscient des limites qui peuvent être posées et qui sera extrêmement facile, effectivement, pour le gouvernement d'arguer une impossibilité constitutionnelle. Voilà. Mais c'est aussi là la volonté un peu de bousculer les choses.
Vous avez bien fait, puisqu'on est devant vous, un peu. On aurait souhaité vous voir de toute manière, mais c'est parce que vous avez fait cette proposition.
Oui, bien sûr.
Vraiment, il faut en parler.
Mais c'est la volonté de ne pas voir ce débat éteint et de trouver, j'allais dire, tous les moyens pour qu'il reste vivant dans le débat public. Et que les Français s'en saisissent.
Alors, ça fait une introduction au point suivant que nous aurions aimé aborder avec vous, c'est que, étant parfaitement convaincu de ce que vous dites, notre jeune association aimerait lancer une vraie campagne sur ce sujet, conçue et montée par une société professionnelle de communication politique, caritative et charitable, et humanitaire, je veux dire. Et... voilà, ce sera l'action principale de notre association de lancer cela. Voilà. Et nous aimerions le faire avec l'appui et la participation des responsables politiques concernés, et à commencer par vous-même. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons entrer dans le détail de tout ceci, mais nous aimerions savoir si nous pouvons continuer ce dialogue avec vous, pour voir dans quelle mesure vous pouvez participer à notre campagne, dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble là-dessus, sachant que nous souhaitons le faire de manière assez grande ampleur et de manière tout à fait professionnelle. Mmh. Les fonds peuvent exister, nous savons comment financer, on y viendra le moment venu, il y a des possibilités de financement, ça coûte une campagne avec une agence nationale, ça coûte de l'argent. Mais il y a la possibilité du financement, sinon nous ne serions pas venus vous voir. Et donc, si nous pouvons aller plus loin, nous avons d'autres choses à vous dire encore, mais... est-ce que ce rendez-vous va avoir une suite avec vous, et avec vous, voir comment nous pourrons trouver la communication avec les autres députés concernés, les deux autres ou les trois, enfin, et le sénateur Thémal, et puis après ça, l'élargir, je dirais, aux 156 autres députés. Il y a tout un processus de travail politique.
J'espère plus, même. Voilà. Enfin, oui, potentiellement, je vous dis. Hein. Alors, parce que c'est pareil, vous évoquiez entre adhérer et signer une pétition.
Voilà.
Signer une tribune et voter un texte, je vous dis, ce n'est pas la même chose. Hein.
Oui, bien sûr.
Qu'à un moment, face au clavier, si le gouvernement dit... ce n'est pas comme signer une tribune. Hein. Donc, à la fois, c'est un bon signe, je trouve, que tant de députés aient accepté de signer. Puisque par ailleurs, il faut sans doute y rajouter, puisque par exemple, le groupe de la France Insoumise n'avait pas voulu signer la tribune.
Ah oui. Donc, l'attitude, en général, il vient de dire qu'on sera bien eux, mais pas que
voilà. Les autres. Voilà. Donc, mais j'imagine que si un texte est déposé, ils ne voteront pas contre. Enfin, ils ne peuvent pas être, ils peuvent pas être en opposition.
À ce point-là, non.
Voilà. Alors, j'ai eu malheureusement pu constater. Que parfois le débat à l'Assemblée nationale a été un peu monopolisé par les médecins.
Ah oui.
Et notamment, même au sein du groupe communiste de l'époque, qui, à ma grande surprise, ils étaient 15, lorsque le texte a été voté, il n'y avait qu'un député, enfin, le porte-parole du groupe communiste était Madame Freys, médecin, et qui était totalement hostile à une loi sur l'euthanasie.
Ah, oui.
Et, elle portait la parole du groupe.
Oui, depuis des années. Moi, je l'ai rencontré il y a des
Ce qui veut dire que tous les, je doute que l'ensemble des députés communistes aient été hostiles à une loi sur l'euthanasie, mais force est de constater qu'ils n'ont pas parlé et qu'à l'arrivée, aucun n'a voté les amendements qu'on avait déposés. Et on voyait bien que Mme Freys parlait plus en tant que médecin qu'en tant que députée. Voilà, et ça, c'est ce produit.
La Fiat, elle est soignante, ce qui est un atout,
Je
trouve.
Oui.
Et alors, juste, deux idées. Est-ce que, si vous proposez la loi, la proposition de loi signée par Fiat, Falorni, Touraine, et puis peut-être un ou deux autres péchés dans d'autres groupes, enfin, est-ce que ça n'aurait pas un mouvement unitaire, enfin, je ne suis pas du tout engagé politiquement, je ne me rends pas compte.
Il faut que le gouvernement soit...
Enfin, j'allais dire, mais ça c'est très facile à faire. Et d'ailleurs, on s'est réunis ensemble.
Avec monsieur Touraine, vous avez signé la proposition de loi. Donc, c'est possible.
Alors, pas la proposition de loi. C'est la tribune qu'on a signée.
C'est pas tout à fait pareil.
Celle de Jean-Louis Touraine est très, en fait... c'est un article.
Minimaliste, minimaliste.
Voilà. Minimaliste, on va dire.
Moi, j'ai essayé d'entrer un peu dans le détail.
C'est sans commune mesure.
Voilà, bon, j'ai essayé de préciser des conditions qui peuvent être amendées, évidemment, sans problème. Mais celle de Jean-Louis est plus... Non. Voilà, c'est en fait une énonciation de principe. Voilà. Mais, en fait... L'enjeu, c'est le fait qu'elle puisse être à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et c'est un groupe parlementaire qui peut permettre à ce que ce soit inscrit.
Comme c'était chroniquement
Massonneau
à l'époque.
Absolument. Ouais. Alors, le groupe En Marche autorisera-t-il le dépôt de ce texte ?
D'accord.
Pour l'instant, j'en doute. Celui de la France Insoumise a été déposé, il a été rejeté.
Oui.
Même avant tout débat, il y a eu un vote de rejet en commission. Quant à moi, je vous dis, il faudra que je convainque mes collègues évidemment, mais quand la niche parlementaire du groupe auquel j'appartiens viendra, eh bien, j'espère que ce texte soit déposé. Pour l'instant, non. Parce que, comme on est un nouveau groupe, l'instant, le groupe, le calendrier n'a pas été
déterminé. Si le majoritaire ne suit pas, ça ne passera pas.
Ça sera compliqué.
Donc, nécessité de faire plus pour y arriver.
Oui.
Je crois que...
Il y avait la question du Premier ministre aussi. Qui lui a pris des positions favorables assez souvent. Bon, je ne sais pas le point du Premier ministre par rapport au
président. Non, mais moi, je crois qu'ils ont quand même un certain nombre de problèmes à gérer aujourd'hui. Ils craignent d'avoir un clivage, enfin, un débat de fond qui peut quand même ébranler une partie de leur soutien conservateur.
Alors, justement, la proposition.
Ils ne vont pas se rajouter ça maintenant avec ce qu'ils ont.
Ah ouais, en ce moment.
Moi, si j'étais à leur place, c'est pas ce que je ferais.
Et puis, il y a le débat sur la PMA qui arrive.
Voilà, c'est surtout ça. On va pas se rajouter la PMA, plus ça. Ouais. Excuse-moi, je pense que c'est impensable.
Mais c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire, est-ce que plutôt que de le passer avec les lois de bioéthique, où effectivement les fourches sont prêtes à sortir, pourquoi pas passer ça dans une loi de santé ?
Parce que la ministre de la Santé n'en veut pas.
C'est ça.
Elle n'en veut pas.
Et puis le corps médical.
Elle raconte des mensonges à la radio. Qu'est-ce que vous voulez.
Vous avez tant de médecins que ça. Vous n'avez pas réussi à dégraisser. Parce qu'il y avait beaucoup moins.
Alors, il y en a moins qu'avant.
Il
y en a moins qu'avant. Et par ailleurs, et heureusement, vous en êtes la preuve, tous les médecins ne sont pas hostiles. J'en rencontre de plus en plus. Mais néanmoins, bon, voilà, je suis allé l'autre jour au comité d'éthique de mon hôpital à La Rochelle, j'avais l'impression d'être dans un autre monde quand même. Même le président s'est excusé en disant, parce que tout le monde était contre, enfin, il y avait 50 personnes, tous en blouse blanche. Alors il y en a qui disaient rien parce qu'ils n'osaient pas parler, parce qu'il y a une forme aussi d'omerta. Le premier qui dit j'y suis favorable, à mon avis, se fait couper la tête dès le lendemain. Et le président s'est même excusé en disant « Je suis désolé, monsieur le député, que ça soit comme ça, que vous soyez tout seul, enfin, vous savez, hein, je pense que Je suis effectivement très minoritaire dans cette enceinte, mais ce n'est pas l'image du pays réel. Bon, mais on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, il y a un blocage. Mais parfois avec des non-dits et même des silences qui parfois aussi disent non, il faut qu'on bouge.
Il y a eu une enquête il y a 3 ans du quotidien du médecin où 66 ou 10% des médecins généralistes, étaient d'accord. Parce que ça nigote tout de même beaucoup, en pratique c'est fait tous les muscles d'anésie, 5-6 000 par an. Donc les médecins les font, ils savent très bien, ils sont dans une illégalité très casse-gueule.
C'est leur faire porter ça sur leurs épaules.
C'est leur porter. D'ailleurs, depuis la loi Claeys, enfin l'Omédie 3, il y a eu un recul des médecins qui n'osent plus.
Complètement.
Je fais de la sédation, mais je ne fais surtout pas d'aide.
Complètement. C'est pour ça que je disais que cette loi pose encore plus de problèmes qu'elle n'en règle.
Il y a la Haute Autorité de la Santé aussi qui a émis une règle il n'y a pas tellement longtemps, qui raccourcit encore le délai.
Oui, oui.
Ça, c'est sur la pratique de la sédation.
Oui, c'est ça, sur la pratique de la sédation.
Il y a l'avis du CCNE aussi avoir travaillé un petit peu sur la loi Claeys-Leonetti, je pense que le CCNE a été aussi briefé, parce que ce n'était pas si clair que ça au début.
Non.
Vous êtes bien d'accord. Oui. Donc, on voit bien que pour l'instant, il y a une sorte de terrorisme. Là-dessus, sur les questions.
Même si des professeurs de renom qui ont travaillé sur ce sujet, avec qui j'avais été amené à faire des débats et qui étaient profondément hostiles, comme Emmanuel Hirsch par exemple, ont profondément évolué. Je me suis retrouvé sur un plateau télé un jour. Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a une audience. On arrive à un débat, alors moi j'étais souvent amené à débattre contre lui.
Moi aussi j'ai.
Et puis et le mettre à côté de moi, je dis, pour une fois on n'est pas face à face, on est l'un à côté de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, la loi Claeys-Leonetti en fait m'amène à dire que cette loi n'a aucun sens.
Hypocrite.
Et que la logique aujourd'hui amène, même si je pense qu'au fond lui il n'est pas favorable.
Pas complètement.
Mais il dit que c'est inévitable.
Il dit que c'est inévitable.
Et que voilà.
Et surtout que ça peut. Enfin, en tant que médecin, tu peux me confirmer, cette sédation parfois pose des problèmes médicaux tels que c'est un enfer pour les personnes concernées, pour leur famille.
J'ai été responsable d'un service de soins palliatifs pendant 10 ans. Je veux dire, dans les services de soins palliatifs, on aide les gens avec la sédation. Les seringues d'Hypnovel, il y a des seringues électriques.
Tu citais pas
cette personne. Une dame avec une tumeur cérébrale relativement jeune, une cinquantaine d'années. On arrête l'alimentation 15 jours, elle est toujours vivante. On arrête l'hydratation 1 mois, elle est toujours vivante. Ça fait 6 semaines de délai avant qu'elle décède.
Ce que n'a jamais voulu reconnaître Monsieur Leonetti dans les débats.
J'étais en face de lui.
Monsieur Leonetti dit, vous savez, c'est une anesthésie générale, la personne ne ressent rien, et puis de toute façon, ça ne dure pas longtemps.
Mon père était sous sédation profonde et continue. Les derniers mots qu'il a dit, c'est j'ai soif. Ma belle-mère, pareil, dans 2 pays différents. Parce qu'on avait arrêté de les faire boire.
De les
hydrater.
Ils ont tout à fait resté aussi.
C'est peut-être un angle d'attaque, d'ailleurs, de dire que cette loi, non seulement c'est une loi hypocrite, parce qu'elle fait semblant de résoudre la question, et qu'en fait, elle peut l'aggraver.
Complètement.
Peut-être.
Je ne cesse de le dire. Mais Madame Buzyn répond évaluation.
Alors, l'évaluation, il y a un rapport de l'IGAS qui a été fait, qui montre qu'il y a. Très peu de sédation, il y a eu très peu de sédation, donc c'est inévaluable. Donc
c'est le serpent qui se mord la queue. Évaluable parce que c'est pas utilisé, c'est pas utilisé parce que c'est pas.
Et que fait-on des gens qui ne sont pas jugés être éligibles à cette sédation? On va reprendre l'exemple d'Anneberg, toutes les maladies neurodégénératives. Il faut vivre son calvaire jusqu'à la toute fin, emprisonné dans son corps.
Elle apporte pas de.
Qu'est-ce qu'on fait des 2 ou 3% des gens qui ne peuvent pas recevoir cette sédation?
Et d'ailleurs, elle l'a appelée, elle m'avait raconté, parce qu'elles ont eu une conversation, Anne-Bert et Agnès Buzyn. Elles ont échangé par téléphone. Et, Et Anne Baer m'avait raconté sa grande déception, même si elle était contente d'avoir pu parler à la ministre de la Santé, mais elle était très déçue de sa réponse, parce que concernant son cas particulier, elle lui a dit « Mais oui, mais écoutez, c'est bien gentil, votre loi, elle casse Leonetti, mais moi, alors là, pour le coup, je suis même exclu des dispositifs qui seraient censés, je dis bien, me permettre de finir ma vie dignement. » Pas de réponse.
Non, vous n'êtes pas mourante, madame. Voilà. C'est ça la réponse.
Voilà. Ouais.
Vous n'êtes pas mourante.
Vous n'êtes pas mourante.
Non,
c'est important. C'est ce qu'on dit, c'est la règle.
Il y a un allié objectif, mais qui, je ne sais pas s'il se dévoilera, c'est l'ancien président du CCNE, du CCNE, un professeur de médecine dont on m'échappe.
Sicard ?
Non, le Sicard a évolué aussi. Oui. Sicard a évolué.
Oui, après,
mais
oui.
le suivant, voyez, vous
oui, comme j'ai fait, oui, oui, j'ai fait un débat avec lui d'ailleurs. Et oui.
Jean-Claude Amezen,
oui.
Il a aussi évolué.
Oui.
En fait, j'ai l'impression quand même que même ceux qui...
Oui. Je l'ai constaté parce que j'ai fait un débat avec lui sur LCP,
oui.
Ben justement lors de la diffusion du documentaire sur Anne Baer, et il était présent, ainsi que la fille d'Anne Baer.
Ouais.
Et j'ai senti qu'effectivement, il vacillait, on va dire, sur une conviction qui, à l'époque, était très, très en
retrait.
Mais j'ai senti l'homme vaciller, même...
Alors, il a attendu de ne plus être président du CCE pour vaciller. Bon, humain, que voulez-vous. Mais il a une phrase forte, une fois devant moi, je l'avais notée, nul n'est tenu d'être témoin de sa propre mort. Lui servir.
Oui.
Et je trouvais que c'était, très bien. Nul n'est tenu d'être témoin de sa propre mort, c'est vrai. Ceux qui veulent l'être, ils peuvent.
Ils peuvent parfaitement l'être.
Et c'est même grandiose de pouvoir l'affronter, mais nul n'est tenu de le faire. On n'est pas tous des héros. Et le professeur Sicard a évolué parce que, peut-être que vous l'avez su à l'époque, quand il a fait son rapport, son vrai rapport, il avait souhaité faire des débats dans toute la France,
oui.
Ça sont assez informels, je ne crois pas qu'on en ait fait à La Rochelle. Et on a sans aucune une publicité, pas du tout institutionnelle, quelques affichages sur les panneaux municipaux, pas plus, on avait toujours rempli des salles importantes. Et on a eu, alors là pour le coup, c'était mobiliser des personnes qui voulaient changer les choses et non pas qui voulaient les bloquer. Et on a eu une foule de témoignages absolument horribles sur ce qui se passait. Et ça l'a fait vaciller. C'est-à-dire que devant la souffrance des gens qui s'exprimaient, c'était des gens qui avaient suivi ça à travers des proches, il a bougé. Donc. C'est pour ça que sur notre site, on s'efforce aussi d'avoir
des témoignages. On a reçu des milliers de témoignages.
On a beaucoup de témoignages de gens justement dans ce sens-là. Donc on pourrait peut-être d'ailleurs diffuser plus largement aussi, si un jour vous en avez besoin, parce que c'est ça un peu qui fait bouger.
C'est
le scandale.
Les malades eux-mêmes, les proches,
voilà.
oui.
Les médecins. On a des témoignages de médecins. Oui.
Alors, c'est dans ce débat qui a eu lieu que nous pensons justement un peu prendre la suite. Et maintenant, reprendre cette idée de débat un peu dans un certain nombre d'endroits en France. C'est ça la campagne qu'on va essayer de monter. C'est pour ça que j'étais content que tu interviennes dessus. Je crois que on va essayer de se mettre dans le prolongement de ça.
Parce que c'est vrai que cette loi, il faut peut-être en parler un petit peu. Enfin, je pense que d'abord, elle n'est pas connue actuellement. Enfin, c'est la loi telle qu'elle est, n'a pas vocation d'ailleurs à faire. À être connue tellement, parce qu'elle est tellement confuse et qu'il y a des spécialistes qui comprennent vaguement ce que c'est. Je pense que c'est peut-être une façon de rebondir,
voilà.
De dire ben voilà, là où on en est, est-ce que c'est suffisant, oui, non, pourquoi, et puis. Et relancer les choses en prenant du temps finalement, puisque vous dites que c'est pas pressé.
Non mais je dis pas que c'est pas pressé.
Non.
Moi je suis un homme pressé.
Ouais.
C'est-à-dire j'aimerais que cette loi soit votée demain.
Mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique.
Le réalisme malheureusement m'incite à vous dire franchement que on se heurte aujourd'hui encore à bien des murs. D'où, effectivement...
C'est intéressant pour vous qu'on travaille le terrain.
Oui, voilà.
Ah, bien sûr.
Alors, justement,
bien sûr.
Vous travaillez le terrain et nous parlions tout à l'heure des médecins, mais aussi des milieux catholiques. Donc, le début de notre communication, là, justement, porte sur ces deux sujets.
Oui.
Nous avons une tribune dans le Figaro, du Figaro qui est là, dans notre dossier, qui est paru, je crois, dimanche dernier.
Oui, ça vient de paraître.
Où nous répondons, où des médecins membres de notre association répondent à une tribune du Figaro où il y avait
d'autres. C'est plusieurs. Enfin, je vais vous expliquer.
Et donc, par rapport.
Il y a une tribune sur
les médecins. Il y a aussi les personnels soignants.
Deux choses. D'abord, par rapport aux médecins, il y a cela. Et nous avons un fichier de 500 médecins qui seraient favorables à une opposition que nous allons relancer. Donc, un des axes de la communication que nous allons chercher à monter, c'est d'abord par rapport aux médecins.
C'est
et l'autre, c'est par rapport au milieu catholique. Et justement, la Croix a accepté de faire paraître une tribune à nous dans les jours qui viennent.
D'accord.
Ça, c'est recto verso.
Et
ça
la Croix a très bien accueilli. Voilà, la Croix a très bien accueilli notre proposition, trouvant que c'était intéressant pour eux, pour la Croix, d'ouvrir le débat avec nous. Mm-hmm. Et je trouve ça très intéressant. Avoir la Croix, avoir un groupe de médecins, c'est déjà deux points de départ.
Aussi Libération nous a beaucoup suivi, oui, Savro a publié, nous a donné deux pages à l'occasion de notre manifeste. Et puis en fait vous avez l'essentiel là-dedans. Je voulais simplement ajouter une petite précision à propos de votre proposition de loi et des autres qui ont été présentées. Nous avons une avocate juriste de très bon calibre qui travaille avec nous, qui est très pointue dans ce domaine. Et elle s'est permis de passer à travers vos propositions de loi. Toutes celles-là, vous allez trouver des choses en bleu qui, je l'espère, vont apporter de l'eau à votre réflexion. Mm-hmm. C'est souvent des détails, des mots qui ont changé, qui ne sont plus utilisés, la loi a changé, ça peut être des bêtises comme ça, et ça peut aussi être des choses plus importantes, mais elle a fait vraiment un travail très très pointu.
D'accord.
Et on vous a mis les quatre propositions de loi, c'est-à-dire la vôtre, celle de M. Touraine, celle de Mme Fiat, et aussi celle de Mme Massonneau.
Avec des commentaires.
Avec des commentaires. Alors, vous en ferez l'usage que vous voulez, mais c'est un travail très très sérieux qui a été fait. Ça peut peut-être apporter certaines informations ou des précisions qui vous seront utiles. Voilà.
Ok. Je crois, Bernard, tu voulais dire quelque chose pour terminer, non,
Non, je voulais surtout. Non.
Alors, bon, ce que je vous propose, je crois que ce rendez-vous pour nous est extrêmement intéressant. Nous aimerions bien qu'il y ait une suite. On vous fera des propositions plus concrètes. Par écrit, en sorte de note de proposition, voir, et puis nous redemanderons au rendez-vous pour voir comment on peut travailler dans ce sens.
D'accord.
Vous seriez d'accord pour
venir vous revoir? Oui, c'est ça, on peut aussi. Puisqu'on a des compétences médico-juridiques.
Nous avons tous des compétences différentes.
On a tous des regards, c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est bien complémentaire.
Et le site est. Sans vouloir te flatter. Le site est très intéressant et peut-être on peut piocher des éléments. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire je pense beaucoup qu'il nous appartient de montrer actuellement que si scandale il y a, ce n'est pas celui qu'on propose, mais c'est celui qui se passe actuellement.
Absolument.
C'est là où est le scandale. Oui,
nous vous suivons, vraiment. Nous sommes très, très heureux que vous soyez là pour vous battre et que vous le fassiez avec autant de conviction. Sachez-le.
Et aussi, votre positionnement nous intéresse, si vous voulez, parce que vous n'êtes plus au Parti socialiste. Mais vous êtes du fait que vous n'êtes pas inscrit en tant que ce plan politique est un très bon positionnement tactique pour nous. Excusez-moi de parler avec un peu de cynisme, si vous voyez. Bon. voilà. Et donc, c'est à partir de là, il faut qu'on ait une entente avec quelqu'un, avec les députés de la majorité, c'est indispensable. Mais aussi, bien sûr, avec d'autres. Et le travail politique vous appartient. Le travail de l'opinion, nous allons faire ce que nous pouvons.
Mm-hmm. Voilà. Très bien.
Bon.
Voilà.
Merci.